Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Les pipelettes de l'IMO. Je peux vous dire que pendant la pub, ça parle. Alors, nous sommes en train de faire le bilan, réfléchir à comment on peut encourager ou réencourager l'investissement locatif. Marie, à vous.
Bah, c'est pas demain la veille qu'on aura notre fameux statut du bailleur privé qu'on attend, on attend. D'ici là, on sait qu'on va perdre le Pinel dans le neuf. Et j'ai envie de dire, je l'ai teasé un peu comme ça hors antenne, mais je vais vous le faire, le Pinel va mourir, vive le de Normandie. C'est ça un peu l'idée, Olivier. Et alors, on va rappeler ce que c'est que le De Normandie aussi, au passage.
Le De Normandie, ça reste un dispositif d'aide à l'investissement dans les biens rénovés, donc des biens anciens, rénovés, de qualité. Donc c'est un dispositif d'incitation, donc on va dire, il est bienvenu, il existait, il s'étend un peu, super. Très bien.
Je peux en faire où du De Normandie aujourd'hui, Olivier ?
Alors, initialement, c'était dans les cœurs de ville. Il y avait 200 cœurs de ville en France. C'était des villes, donc pas des métropoles.
Pas des grosses villes sous tension.
Non, mais en tout cas, ça avait le mérite d'être une expérimentation intéressante sur ces 200 cœurs de ville. Nous, immédiatement, quand on a vu le dispositif, qui était en fait un peu la prolongation de ce qu'on avait à l'époque sur le Borloo et le Besson, c'était une façon d'attirer les investisseurs vers des marchés plus difficiles que le neuf, qui est l'ancien à réhabiliter.
Et donc, c'est une sorte de Pinel ancien, en fait.
Oui. C'est un peu ça. Amortissement, déduction fiscale. Donc, ça permettait d'attirer du monde. Et plutôt que d'avoir des logements qui restaient cristallisés sur des mauvaises normes ou une mauvaise performance énergétique, on arrivait sur quelque chose de sympa. Donc, on contribuait à cette rénovation globale.
Vous parlez au passé ?
La problématique, c'est que ces dispositifs, pour qu'ils soient efficaces, il faut arriver à les étendre et pas seulement à des micro-marchés. Je veux dire, aujourd'hui, notre crise, elle est multifactorielle, elle est sur l'ensemble du territoire national. Et à un moment donné, si quelque chose fonctionne bien, étendons-le un grand coup, quitte à ce que ça soit sur une période un peu courte, mais au moins, on redonne le bol d'air qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, il faut pousser ces dispositifs.
La proposition, c'est de dire, il faut accorder des ristournes fiscales à ceux qui promettent d'investir, de mettre à la location des biens qu'ils s'engagent à rénover. C'est ça que vous dites ? Partout.
Il faut accompagner fiscalement les personnes qui prennent le risque d'acheter un bien immobilier, d'assumer des travaux pour le mettre à disposition des locataires.
En parlant d'accompagnement, je rebondis sur le message que François, notre auditeur, vient de nous envoyer. Il nous dit, pour encourager l'investissement locatif, en parlant d'accompagnement, les promoteurs devraient peut-être étudier des formes d'ateliers collectifs pour permettre aux acquéreurs dans l'ancien de mieux se projeter. C'est ce qu'il manque, il trouve, notre auditeur François. Se projeter, manque de transparence côté offre pour rassurer la demande. Accompagner, mais pas que financièrement.
Oui, alors après, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que les promoteurs ont quand même, alors je ne sais pas ce qu'en pense Virginie, mais les promoteurs sont quand même beaucoup impliqués là-dedans pour essayer justement avec la visualisation en 3D quand on achète, parce que j'imagine qu'ils parlent de ça. C'est-à-dire quand je vis dans l'ancien, comment me projeter quand ils parlent de promoteurs, donc sur le neuf. J'imagine, hein, je ne sais pas François si je dis une grosse bêtise ou si j'ai mal lu, mais l'enjeu c'est quand même effectivement de pouvoir se projeter dans le neuf pour pouvoir essayer de passer à l'acte. Je sais pas ce qu'en pense Virginie, mais j'ai le sentiment quand même qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont à la disposition des potentiels acheteurs pour se projeter un tout petit peu quand même.
Oui. Et puis de toute façon, la règle d'or, j'allais dire, c'est l'emplacement. Et après, il faut regarder effectivement ce qu'on achète. C'est-à-dire, si on achète un rez-de-chaussée sur cour, bah, ça va peut-être pas être hyper sexy comparé à un dernier étage avec le gentil balcon qui va bien. Mais ça, c'est des règles de base de l'immobilier. Je pense qu'il faut plus d'accompagnement aussi sur l'ensemble du process, c'est-à-dire comment on rédige un bail, comment ça va se passer, la mise en copropriété, etc., etc. C'est un peu plus global que ça, et ça, effectivement, peut-être
c'est-à-dire
que
pour
certains
l'achat, puis la mise en location, enfin, avoir
l'achat,
un accompagnement
puis la mise
de
en location. Souvent, c'est d'ailleurs les promoteurs, sont des agences immobilières qui vont sélectionner le bailleur, le locataire. Et accompagner, faire toute la recherche du locataire, vérifier sa solvabilité, et s'occuper du contrat de bail. Donc, il y a quand même un accompagnement, peut-être qui peut être jugé insuffisant, mais qui est réel
quand même.
Souvent. Quand
même. Bon, Virginie,
qui est payant aussi, souvent.
En attendant, c'est quand même la crise. Hein.
Oui.
Et puis, alors, je suis désolée, on y arrive toujours. Le problème, c'est qu'en ce moment, le marché, on ne peut pas dire, les frémissements ne suffisent pas. Et donc, techniquement, on a quand même une situation assez problématique pour tout un tas d'entreprises qui sont en difficulté.
Oui. Alors, c'est toute la filière qui est touchée. Donc, on voyait les derniers chiffres, cabinet Altares, sur les faillites. Alors, il y avait toute une partie sur les agences immobilières. Il y en a plus de 900 qui ont fermé l'an dernier. Il y en a déjà quasiment 400 sur le premier trimestre 2024. Donc, le rythme s'accélère, ce qui correspond...
Aux problématiques de l'année dernière.
On voit, et ça doit sans doute pas s'arrêter, arrêtés. On voit les plans sociaux avec l'annonce toute fraîche du plan social de 500 personnes chez Nexity. Bouygues, c'est 200 ou 300 personnes. Il y a eu Vinci Immobilier. Il y a les plans sociaux qui ne disent pas leur nom chez d'autres promoteurs. Du côté des constructeurs de maisons individuelles, c'est la AST, suspension de cotation de AST Group. Ouais. Et on sait bien qu'il y a beaucoup de constructeurs qui sont à la peine. Il y a eu tous les départs non renouvelés, réduction de voilure, toute la filière souffre. Et après, ce sont tous les métiers connexes. C'est valable pour les courtiers, c'est valable pour les diagnostiqueurs, c'est valable pour les notaires. Il y a quand même un pan économique qui est mal en point et on peut ne pas être très très optimiste sur 2024 non plus.
Bon, comme on est dans la partie un peu pagaie, on a parlé de la crise, effectivement, pour les professionnels, les entreprises du secteur. J'ai envie de dire que c'est aussi la crise dans les copros, justement.
Plans sociaux, faillite, transition idéale.
Il y a aussi des copropriétés en faillite, hein, Olivier.
Ouais, alors c'est vrai que c'est un peu chiant de parler tout le temps de crise.
Ouais, un petit peu ennuyeux aussi. Vous pouvez rester poli même si c'est triste.
Bon, je ferai attention sur ma terminologie. Non, mais c'est vrai que c'est lourd parce que ça touche tout le monde. Et puis on n'a pas parlé des collectivités publiques, hein. Mais les départements, les communes.
Ah, bah oui, moins de taxes foncières, moins de droits de mutation.
Pas de droits de mutation, voilà, il n'y a pas de revenus. Donc c'est vrai que ça impacte tout le monde. Et c'est pour ça que c'est assez difficile de ne pas avoir de mesures choc d'un coup qui nous permettent de changer la donne immédiatement parce qu'on est tous accrochés à ça. Et on dit toujours qu'en bâtiment va tout va, c'est vrai.
Mais là, ça va mal.
On va pas. Donc, dans les copros, comment ça se passe? Dans les copros, bien évidemment, on a une légère augmentation des impayés en copropriété.
C'est quoi le taux d'impayé?
Alors ça, c'est un vrai sujet. Il est pas énorme, le taux d'impayé.
Parce que c'est des retards de paiement de charges, c'est quoi?
En fait, ce ne sont que des retards. On a un sujet avec le registre national des copropriétés qui nous donne des mesures. Mais les mesures qui sont déclarées dans le registre des copropriétés, c'est qu'une situation comptable à date, et ces situations comptables qui sont des débits, sont en général réglées le mois qui suit. Donc en fait, il n'y a pas tant d'impayés que ça. Mais par contre, quand on se dit que 240 000 copropriétés sont au-delà de 25% d'impayés, parce que c'est écrit dans le registre, tout de suite, on se dit, c'est la catastrophe. Les copropriétés en difficulté.
Ça, c'est l'échelle nationale, ça?
Oui, mais c'est parce que c'est une vision comptable de l'esprit à un moment donné qui n'est pas du tout la
réalité. Oui, c'est en gros 25% en avril. Quoi.
Dans un immeuble, vous recevez votre facture, un mois après, elle est payée, il n'y a plus d'impayés. Il peut y avoir un peu de retard, c'est pas grave. La copropriété fait son recouvrement, enfin, on se débrouille. Mais il n'y a pas tant de copropriétés que ça. Je tiens à dire quand même qu'il n'y a que 200 saisines de mandataires qui viennent accompagner, avant l'administration judiciaire des copropriétés, 200 saisines par an. Il y a presque 800 000 copropriétés.
Donc en gros, 200 cas vraiment tendus, quoi.
Sur presque 800 000 copropriétés, donc c'est pas non plus la catastrophe. Par contre, on constate comme en réalité, avec une augmentation des charges, notamment l'explosion des coûts de chauffage qui a été limitée grâce au bouclier tarifaire, on note qu'il y a un peu plus de difficultés à assurer
plus
le paiement des charges.
Plus de retard quand même, voilà.
Et on a des augmentations avec l'inflation, on nous met du 6, 8, 10% sur certains contrats, donc à un moment donné, tout le monde tire la langue, et c'est vrai qu'il faut être vigilant quant au bon suivi de l'état financier de la copropriété, ce que font les professionnels, parce que je rappelle que la gestion des copropriétés, c'est 92% les immeubles, et c'est pour ça que dans le cadre de la loi Habitat dégradé, on a voulu faire comprendre au pouvoir public qu'il ne fallait pas mettre toutes les copropriétés sous des régimes de protection de copropriétés dégradées parce qu'elles ne sont pas du tout nécessairement en difficulté, contrairement à ce qu'on pourrait...
Mais enfin, Olivier, à tout ça s'ajoute aussi les enjeux de rénovation énergétique qu'on aborde au fil de l'eau depuis le début de l'émission, parce que ça reste en fond de sauce quand même, hein, mais ces obligations de rénovation énergétique dans les copros, elles existent aussi, hein, ça aussi, est-ce que ça pourra être tenu compte tenu de la santé financière des copros aujourd'hui?
Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez du mal à payer vos charges, vous n'allez pas vous lancer dans un dispositif de rénovation énergétique. Donc, on peut pas dire aujourd'hui que les copropriétés sont impactées par les impayés parce qu'elles ont lancé des grosses opérations de rénovation. Parce qu'en réalité, ça a du mal à décoller, cette rénovation énergétique. Donc, oui, à force, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne veut pas trop assouplir les règles d'adoption des travaux de rénovation énergétique, c'est que si peu de copropriétaires arrivent à embarquer toute la copropriété, et si les copropriétaires n'ont pas les moyens financiers d'assumer cette rénovation énergétique, on va aller au carton, ça va être la catastrophe.
Donc,
Il faut faire quoi? Il faut accompagner cette rénovation énergétique, structurer les financements avec les éco-prêts à taux zéro pour pouvoir accompagner le financement dans les immeubles. Il faut s'assurer que France Rénov et tous les dispositifs publics d'accompagnement se structurent correctement, que les entreprises soient là et qu'on y aille avec de la pédagogie dans un temps qui correspond au temps long de l'immobilier et de la copropriété, qui est plutôt sur 5-7 ans. La moyenne sur une rénovation énergétique, c'est 7 ans.
Là, Olivier...
C'est pas demain, au 1er janvier 2025.
Olivier, dans le rêve, donc poursuivons dans le rêve pour terminer cette émission, je vois.
Attends. Habile transition.
Oui. Bon, très bien, merci.
C'est bien que vous ne présentiez pas toute cette émission, hein, parce que vos transitions sont quand même très douteuses.
Oh, bah non, quand même, là. Non, mais effectivement, je pense que effectivement, c'était sympa de terminer cette émission, parce que forcément, on parle du marché locatif, de l'investissement, de la crise dans les copros, de la crise pour tout le business autour du logement et de l'immobilier. Je pense qu'effectivement, on va souffler un tout petit peu pour terminer, et c'est grâce à Virginie. Parce que là, on va découvrir un truc de dingue que je ne pourrai jamais m'offrir.
Eh ben oui, mais comme beaucoup de Français d'ailleurs, et d'ailleurs ce ne sont pas des Français, en fait on a...
et d'ailleurs, c'est pas pour nous.
Si, si, mais ça pourrait, on peut tout imaginer. Simplement, on a donc décidé dans le dernier numéro de Challenge de faire un dossier immobilier qui porte plutôt sur le luxe, puisque ça reste quand même une niche qui marche mieux que le reste. Je dis pas que c'est la super forme non plus, hein, parce que tout a ralenti, le luxe aussi. Mais c'était simplement, vous avez eu il y a quelques mois, cette transaction record dans Paris, 35 millions d'euros pour un appartement sur le Champ de Mars de 669 mètres carrés. Il y a de la place.
Un petit appartement.
Le réseau John Taylor qui a conclu cette transaction.
On a le DPE ou pas, Virginie ?
Le DPE, il est nickel parce que, en fait, c'est l'illustration des biens qui se vendent extrêmement bien aujourd'hui à Paris ou sur la Côte d'Azur ou dans les Alpes. Ce sont ce qu'on appelle les biens clés en main. Ce sont des appartements ou des immeubles ou des hôtels particuliers ou des chalets ou des villas, peu importe, qui sont repris par, en l'occurrence, c'est la Cogema, c'est-à-dire une société dont c'est la spécialité, mais il y a des fonds d'investissement, il y a des family office, des sociétés qui prennent un actif, qui vont le rénover de fond en comble, qui vont le meubler, le décorer, donc le DPE n'est plus une question, hein. L'équiper. Vous avez toutes les technologies dernier cri qu'on peut imaginer.
C'est le bien sans défaut, quoi.
C'est le bien.
Et pardon, excusez-moi, c'est quoi le genre défaut de technologie dont on peut rêver?
Mais si, par exemple, vous avez envie d'avoir votre télé incrustée dans le miroir de la salle de bain, on va vous faire ça. Si vous voulez des portes qui s'ouvrent quand vous voulez juste rentrer dans la cuisine et que par hasard vous avez les mains chargées, elles s'ouvrent toutes seules. Enfin, on peut tout imaginer. C'est surtout un travail d'aménagement, puisque ça correspond un peu à habiter un palace, c'est-à-dire vous reprenez en gros les codes de l'hôtellerie de luxe, chambre en suite avec une grande salle de bain, dressing,
c'est
etc.
C'est ça qui fait un petit peu de monde dans 700 mètres carrés, quoi.
Il faut des choses. En l'occurrence, ce bien qui a été acheté par des acquéreurs chinois, vous avez 600, à peu près 600 mètres carrés de plein pied, ce qui est très très rare dans Paris. Vous avez une vue évidemment Tour Eiffel.
Évidemment.
Mais oui, vous avez plus de 5 mètres de hauteur sous plafond. Enfin, c'est
c'est intéressant ce que vous dites, parce que 669 mètres carrés de plein pied, ça veut dire que c'est probablement un bien qui s'est emprunté, j'allais dire, sur plusieurs immeubles. Enfin, mais je ne comprends même pas comment c'est possible.
Mais en fait, alors après, il y a un système de mezzanine, donc je n'ai plus la surface exacte de plein pied, mais elle est comme vous avez 5,50 m de hauteur sous plafond, vous pouvez créer des petits aménagements supplémentaires.
Petite hauteur sous plafond.
Voilà. Mais toujours est-il que ces biens clés en main, ils sont extrêmement rares et extrêmement demandés parce que les emplacements sont rarissimes. Et donc, vous avez effectivement juste quelques immeubles qui sont disponibles. Vous avez forcément une vue sur quelque chose de très parisien. Donc, en l'occurrence, c'est la Tour Eiffel quand vous êtes au Champ de Mars. Mais vous pouvez avoir, quand on voit la vente de l'appartement de la Gerfeld aux enchères il y a quelques semaines, 10 millions d'euros parce que vous avez une vue Louvre et Seine. Vous êtes sur les quais. Bon, mais ça, c'est unique. Vous aimez l'appartement ou pas, entre guillemets, et la décoration qui restait des aménagements de Karl Lagerfeld. Mais cette vue-là, personne ne l'a.
Mais du coup, qui l'a acheté, Virginie? Parce que
je sais pas.
On se doute que c'est peut-être Olivier, mais.
Ouais.
Non. Il n'y a pas grand monde qui veut
savoir. Non, je n'ai pas encore réussi à savoir, mais on finira bien par le savoir.
35 millions d'euros.
Là, ce bien, c'est son. Il faut voir que Paris ou la Côte d'Azur conserve toute leur attractivité en termes de trophy asset, c'est cette volonté d'avoir des biens exceptionnels. Et donc, tout est exceptionnel. L'aménagement, les services associés, etc., etc. Décoration, meubles, tout ce que vous voulez. Il y avait le piano inclus dedans.
Évidemment.
Normal,
j'imagine. Un appartement de 669 mètres carrés vendu sur le Champ de Mars, en plein cœur du 7e, en face de la Tour Eiffel, donc centre de Paris. Ça fait du 50-52 000 du mètre carré.
C'est ça.
Et bon calcul. En maths, vraiment.
Mais oui.
Je suis journaliste économique. Vous aussi, Marie.
Oui, mais alors moi.
Cet immobilier de luxe, très sérieusement, nous en reparlerons lundi. Marie, on sera avec la maison Sotheby's.
Exactement, avec Alexander Kraft, et on pourra faire un petit point sur ce marché, effectivement, qui résiste mieux que les autres, mais effectivement, qui quand même subit lui aussi la crise.
Oui, et à l'image du secteur du luxe en bourse, il y a plusieurs immobiliers de luxe.
Oui,
il y a le luxe, et le luxe.
Il y a le mini luxe,
c'est ça. La différence, peut-être, la barre autour de 1,5 million, notamment sur le marché parisien. Merci à tous les trois. Merci à notre consoeur Virginie de Challenge. Merci à vous, Marie Cœur de Roy. Et merci à Olivier et l'équipe de FNAIM Grand Paris pour cet éclairage. À retrouver en podcast et en replay, comme l'ensemble de nos séquences immobilières sur l'application et le site BFM Business.